des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec deux députés dont les régions sont profondément affectées par la crise des feux de forêt actuels. Quel est le rôle de l'élu dans de telles circonstances? Comment se portent leurs commettants? Quels contacts ont-ils avec eux? Mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Mais bonjour, Dave Noël.
Bonjour, Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, de Mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. En fait, c'est ton dernier mardi avant l'automne.
Oui.
Parce que tu vas revenir cet automne, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Bon, c'est annoncé, c'est officiel. Parlons d'abord d'un sujet très estival, le stade municipal de baseball et le baseball en général.
Oui, ben celui de Québec.
À Québec.
Oui, c'est ça, le stade de la capitale qu'on appelle aujourd'hui le stade Canac.
Ben oui.
C'est un stade qui a été construit en 1938, donc à l'époque de Duplessis. Et c'est là que jouent les Capitales de Québec, une équipe de baseball professionnelle. C'est dans cette ligue-là, la Ligue Frontière qu'on appelle, dans laquelle jouent également les Aigles de Trois-Rivières, dans le même stade que celui des Capitales sur le plan architectural.
Donc, ils sont similaires. Ils
sont identiques, en fait. Le stade de baseball de Trois-Rivières et de Québec ont été construits la même année. Et c'est des stades jumeaux, donc sur le plan architectural. Et donc, à la fin mai, on apprenait que la Ville de Québec avait décidé de le garder parce qu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le stade serait rasé pour en construire un nouveau près du Colisée, le centre Vidéotron, où jouent les Remparts. Donc, c'est ça, on parlait d'éventuellement le détruire, on considérait qu'il était vétuste, mais finalement, la Ville de Québec a décidé de le rénover pour 11 millions de dollars, rénover les aires extérieures, et tout en gardant le cachet. Donc, ça s'est passé quand même proche, parce qu'on ne sait jamais avec le patrimoine sportif, c'est un patrimoine qui est souvent utilitaire. On veut que ce soit efficace, on veut qu'il y ait du stationnement autour, on veut que les gens puissent entrer rapidement dans le bâtiment, ce qui fait que c'est un patrimoine qui peut être menacé. Et d'ailleurs, un conseiller municipal de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, en septembre dernier, qui avait évoqué ça justement, l'idée de démolir le stade pour en faire un plus grand. Et aussi,
c'est un stade auquel les gens sont attachés à Québec. Moi, je me souviens d'une corvée de peinture, de nettoyage au début des années 90. Là. On avait forcé d'une certaine façon la municipalité à garder le stade parce que là aussi, il était en danger. On songeait à le démolir.
Oui, ben c'est ça. C'est jamais gagné. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, le Journal de Québec, samedi, nous apprenait que l'ancien propriétaire des Capitales de Québec, Miles Wolfe, considérait que c'était une erreur de garder l'équipe des Capitales dans le stade actuel.
Ah oui?
Il aurait préféré qu'on se tourne vers un nouveau bâtiment pour avoir plus de stationnement. Et c'est ça, donc, on revient à ça. Il dit que
Il semble qu'il y a quand même beaucoup de stationnement
il y a
devant.
Un projet de tramway qui va passer tout proche, qui va éventuellement être inauguré. Et fait amusant, M. Wolfe, c'est le beau-père de Jackie Smith, qui est la conseillère municipale et chef de Transition Québec.
Ah oui.
Donc, c'est assez intéressant. C'est quand même des approches assez différentes. Donc, le stade municipal, pour revenir au bâtiment, lui, il avait été érigé à la fin des années 30 avec un programme d'aide aux chômeurs. Donc, on se replace dans la crise économique des années 30 et on essayait de faire travailler des chômeurs,
On voulait créer de l'emploi.
Tout à fait, et ça a marché parce qu'on avait trois équipes de 300 travailleurs.
Après la crise de 29.
Oui, bien la crise de 29 a duré jusqu'à la guerre mondiale.
Finalement. C'est ça.
Et donc à l'époque, en 37-38, il y avait trois équipes de 300 travailleurs qui travaillaient jour et nuit Il serait parti ça des quarts de travail pour le bâtiment. Et il a été érigé dans le style streamline moderne. Donc, ça rappelle un peu l'architecture art déco. Il y a une forme vraiment... c'est un bâtiment très particulier.
J'aime bien ce stade, moi.
Oui, très, très beau bâtiment.
J'aime ça aller au baseball une fois de temps en temps. Et à la fin, je m'endors un peu, mais
oui, ben c'est ça.
C'est long.
Un des problèmes du vieillissement, on prend des clous. Et à Trois-Rivières...
Ça va t'arriver, Dave, ça va t'arriver.
Un jour.
Oui.
À Trois-Rivières,
c'est quoi, Fadoc moins 7, là? Hein?
Ah, on n'entre pas là-dedans.
OK, parfait.
Là-dedans. Donc, c'est ça, à Trois-Rivières, il s'appelle le stade Kiorama. Donc, c'est intéressant, c'est un bâtiment vraiment identique. Pour celui de Québec, le premier match s'est déroulé le 14 mai 1939, donc juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Et en 2009, parce qu'il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées sur ce terrain-là, dont les capitales de Québec. Et en 2009, Éric Gagné, qui est un ancien joueur des ligues majeures. Donc, lui, il était venu ici, il avait découvert le stade à l'époque, il avait dit « c'est magnifique ». C'est vraiment unanime, l'ambiance de ce bâtiment-là fait penser...
Ah, puis l'année où Éric Gagné a lancé, c'était formidable.
Oui,
il y avait une atmosphère de fou dans ce petit stade.
Tout à fait. Et quand on parlait de patrimoine menacé, à Québec, sans aller très loin, on a l'ancien Colisée, qui à l'origine avait une façade art déco également, le même style que le stade de baseball, qui est disparu en 1980 quand on a rénové le bâtiment pour accueillir les Nordiques.
Ouais.
Et surtout, plus proche de nous, l'Hippodrome de Québec. À l'endroit où on a construit le centre Vidéotron, à l'origine, il y avait un hippodrome qui avait été construit en 1915.
Rasé pour mettre le détecteur de fumée.
Oui, mais à l'origine, le détecteur de fumée était censé être relié à la vieille structure de l'hippodrome. Et j'ai retrouvé la citation du maire Labeaume de 2012 qui expliquait que finalement, on ne garderait pas l'hippodrome de 1915. Il disait « Quand tu veux faire un crocodile, tu fabriques un crocodile. Quand tu veux faire un lion, tu fabriques un lion. Mais si tu essaies de faire les deux, ça va donner un croco-lion. » Donc, il voulait dire qu'on ne pouvait pas...
garder la façade.
Garder la façade, allier le neuf et le vieux comme on fait très facilement quand même. Donc, voilà, c'est un dossier...
J'étais très déçu. Je me souviens, on était dans le bureau, toi et moi, on était catastrophés. Parce qu'on aimait bien la devanture de l'hippodrome.
Oui, c'est ça. L'hippodrome était sur le point d'être centenaire.
Mais
c'est l'architecte qui avait fait l'hippodrome, c'est le même qui avait fait l'hôtel de Ville de Québec, Georges-Émile Tanguay.
Avant de passer au deuxième sujet, Dave, on écoute un extrait d'une chanson de Bob Bissonnette sur les capitales de Québec.
Juillet, c'était la grosse panique. À regarder nos stats, c'était dramatique. Dans les journaux, on nous voyait bon dernier. Mais les boys se sont jamais découragés.
Alors, c'était Bob Bissonnette, un extrait de sa chanson Let's Go Caps. Hein, l'accent d'Amérique.
Oui.
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 Dave, deuxième sujet maintenant, après cette rubrique patrimoniale. Sixième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Alors, la programmation a été annoncée aujourd'hui, puis moi, je sais qu'il y a un événement qui va m'intéresser beaucoup. On passe d'un Bissonnette à une autre, c'est Lise Bissonnette,
oui,
qui va être le 13 août en discussion avec Éric Bédard au Musée de la Civilisation. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ces rendez-vous d'histoire.
Oui, c'est ça, donc la programmation qui vient de sortir et cette discussion-là va être très suivie. Le thème, c'est la grande noirceur, mythe ou réalité. C'est un grand entretien avec Lise Bissonnette. On va parler de sa carrière, son parcours professionnel. Ancienne directrice du Devoir et de la Grande Bibliothèque. Elle va revenir sur les grands jalons de sa carrière. Et Éric Bédard, donc lui qui était très critique de la mémoire de la grande noirceur, c'est-à-dire de considérer que tout ce qui a précédé la Révolution tranquille était une espèce de Moyen-Âge où il ne faut pas trop aller.
J'ai regardé le documentaire sur Lusty Show dans les années 60 et c'est étonnant d'entendre Éric Bédard qui, lui, explique que Lusty Show, c'est un peu le début aussi d'une révolution tranquille artistique. J'étais étonné un peu.
Oui, comme un contre-emploi.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, bon, on pourra lui en parler.
Comme si on invitait Burke pour parler de la Révolution française.
Oui.
OK, je referme cette parenthèse. Je m'excuse, je fais plein de parenthèses.
Oui, mais donc, ça va être une conférence très intéressante. Il va y avoir aussi une autre conférence en lien avec la Révolution tranquille de Robert Trudel, consacrée à André Marié. Qui, lui, à l'époque du premier ministre Jean Lesage, avait développé l'argumentaire pour justifier la deuxième phase de nationalisation de l'hydroélectricité en 1962 et aussi pour la mise en place...
André Marier, c'est un grand commis de l'État, ben oui. Parfait.
Et pour la régie des rentes aussi, la caisse de dépôt de placement. Donc,
c'est un lointain cousin à moi, oui.
Ah oui?
Oui, oui, bien sûr.
On parle des années 60 et on parle, en fait, quand on voit des documentaires historiques sur la Révolution tranquille, on parle toujours de Parizeau, donc Claude Morin, mais il y avait d'autres personnes avec ces gens-là, dont André Marier. Ça va être une conférence à suivre. Mais le thème principal des rendez-vous d'histoire, ça va plutôt être le 100e anniversaire de la naissance d'Alice Robbie, donc la chanteuse de Québec du quartier Saint-Sauveur.
Ben oui.
Ça va être à la Maison de la littérature.
Départ important au devoir aujourd'hui, Robert Dutrisac.
Oui, un monument historique.
Ben oui.
Vivant.
Qui s'en va de l'éditorial, en tout cas, qui quitte pas nécessairement le métier, mais qui quitte le devoir et quitte la Tribune de la presse.
Oui, chose. Donc après 24 ans à la Tribune de la presse, Robert Dutrisac, un collègue et ami à nous deux.
Oui.
Donc il a vu passer depuis 1999 six premiers ministres. Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard et François Legault. Donc, en un quart de siècle, il a vu passer beaucoup de choses. Et justement, on a un extrait de Robert avec François Legault.
Qui discute, oui.
En 2019.
Oui. Écoutons-le.
Oui. Il y a un mot que vous avez employé, c'est le mot « fierté ». Vous oui. l'employez à plusieurs reprises. Mais c'est un mot aussi qu'on a commencé à coller au Québec en général depuis votre arrivée. C'est-à-dire, les commentateurs qui disent « la fierté est retrouvée ». Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est à cause, justement, ce type de projet de loi sur la laïcité où le Québec s'affirme?
C'est difficile à saisir, parce que j'ai peut-être eu, là, dans les dernières semaines, des dizaines, sinon des centaines de personnes qui m'ont arrêté pour me dire « M. Legault, on est fiers de ce que vous faites. » Là, je leur demande « Pourquoi vous êtes fiers? » Et là, c'est moins clair. Il y en a qui vont dire « Oh, vous êtes comme nous, vous nous écoutez. » C'est... Il y a une certaine émotion. Là. Il y a comme... les gens sentent que le nouveau gouvernement accepte de répondre à leurs préoccupations, à leurs priorités. Mais c'est intangible. C'est difficile de mettre ça juste sur une décision.
C'est un sentiment aussi qui semble porter sur le Québec en général. C'est-à-dire, les gens sont plus fiers du Québec d'être Québécois.
Mais ça a toujours été un de mes objectifs.
Je sais qu'il y a eu à Saint-Jean, etc. Oui. Il y a eu des démonstrations de cette fierté-là. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un hymne national à nous, au Québec?
Bien, écoutez, là, il faut justement trouver un équilibre. Là. Est-ce que on doit avoir une constitution québécoise, qu'on doit avoir un hymne national? Bon, on a déjà un drapeau. Est-ce qu'il faut poser d'autres gestes? J'exclus rien à ce moment-ci.
François Legault qui exclut à rien, même pas un nouvel hymne national et une constitution en 2019.
Oui.
Il semble que ça a changé un petit peu.
C'est ça. Donc, Robert, arrivé en 99, en 2011, il était président de la Tribune de la presse
oui.
lors du 140e anniversaire. Donc, il était au centre des activités qui préparait un peu, dans le fond, c'était comme une répétition pour le 150e qu'on a eu récemment.
Il a été beaucoup plus longtemps reporter qu'éditorialiste.
Oui, il est arrivé au devoir en 87. Avant ça, il avait été au Montréal Matin à une époque. Donc, bonne retraite partielle, Robert. Donc,
ben oui.
Voilà.
On termine avec un anniversaire important. On est le 6 juin quand même.
Oui, le jour anniversaire du débarquement de Normandie.
Ben oui.
Le jour J en 1944. C'est le 79e anniversaire. Et avant de partir pour l'été, j'ai pensé une petite suggestion de littérature, en fait plutôt un essai d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur le débarquement de Normandie. C'est très central. C'est souvent centré autour de figures comme Churchill et on parle beaucoup de stratégie, tout ça. Mais un ouvrage fascinant de Jean-Luc Laleux. Ça s'appelle « Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement ». Donc, c'est un ouvrage qui a été publié chez Perrin l'année dernière, mais qui est toujours disponible en librairie. Il raconte vraiment le débarquement du point de vue des défenseurs, donc l'armée allemande. Mmh. Et il rappelle à quel point le débarquement de Normandie, c'est pas un tournant comme on imagine en Occident. Nous, on en a fait le point tournant de la guerre, mais en réalité, l'Allemagne, en 1944, est déjà battue par l'URSS. C'est la dictature communiste qui a battu la dictature nazie, comme il le rappelle. Et le débarquement de Normandie, ça fait un peu office d'opération de diversion, mais évidemment, c'est une opération de grande ampleur, mais la guerre est déjà perdue à ce moment-là sur le front de l'Est. Et il rappelle que, par exemple, le mur de l'Atlantique, on parle beaucoup du mur de l'Atlantique, était le système défensif aménagé en France, en Belgique. C'était un peu un bluff. C'était, oui, il y avait une ligne de défense, mais elle n'était pas très profonde. Et d'ailleurs, elle a été percée en 5 heures par les assaillants britanniques, canadiens et américains. Donc, une lecture très intéressante pour ceux qui veulent en savoir plus sur le déroulement vraiment au ras du sol de ce combat-là dont on souligne l'anniversaire aujourd'hui.
Merci beaucoup, Dave. Bon été. Et on se laisse avec une chanson de Jean-Frédéric Lafaille, justement, qui rend hommage aux Québécois, Canadiens, qui sont morts sur ces plages de Normandie. Et on leur doit un peu notre liberté, comme il dit. Écoutons Jean-Frédéric Lafaille.
Jamais 20 ans, car avant son temps, pour vivre les miens, il fallut qu'il donnât les siens. Sur une plage de fer, rivage de l'enfer, fut la Normandie pour son retour au vieux pays. De bataille, tu vis les entrailles de la peur, la haine, toute la bêtise humaine. Si tu n'en revins, sache qu'on se souvient du grand sacrifice, la mémoire te rend justice. Ici au pays, quand tu tombas en Normandie, soldat anonyme, sans drapeau, sans hymne, qui pleura ton âme, qui perpétua ta flamme. Pierre, le long de la Manche, se dresse ta croix blanche. Pour qu'on se souvienne, l'horreur se fait souvent humaine. Pierre, sais-tu qu'aujourd'hui, en ta Normandie, d'hiver en été, la mer dit ton nom, Liberté.
On écoutait Pierre de Jean-Frédéric Lafaille en l'honneur de tous ces soldats tombés au combat le 6 juin 1944.